Le malheur est une larve accroupie dans les lieux humides. Les deux bannis de la joie crurent flotter dans des limbes de viscosité et de crépuscule. Le feu le plus ardent ne parvenait pas à sécher les murs, plus froids à l'intérieur qu'au dehors, comme dans les cachots ou les sépulcres, et sur lesquels pourrissait un papier horrible. D'une petite cave haineuse que n'avait certainement jamais élue la générosité d'aucun vin, parurent monter, au commencement de la nuit, des choses noires, des fourmis de ténèbres qui se répandaient dans les fentes et le long des joints d'un géographique parquet. L'évidence d'une saleté monstrueuse éclata. Cette maison, illusoirement lessivée de quelques seaux d'eau, quand elle attendait des visiteurs, était en réalité gluante à peu près partout, dont ne savait quel sédiment redoutable qu'il aurait fallu racler avec un labeur sans fin. La gorgone du vomissement était accroupie dans la cuisine que l'incendie seul eût été capable de purifier. Dès la première heure, il avait fallu installer un fourneau dans une autre pièce. Au fond du jardin, de quel jardin, persévérait un amas de détritus effrayants que le propriétaire avait promis de faire enlever et qui ne devait jamais disparaître. Enfin, tout à coup, l'abomination. Une odeur indéfinissable, tenant le milieu entre le remugle d'un souterrain approvisionné de charognes et la touffeur alcaline d'une fosse d'aisance, vint sournoisement attaquer la muqueuse des locataires au désespoir. Cette odeur ne sortait pas des latrines, à peu près impraticables d'ailleurs, ni d'aucun autre point déterminé. Elle rampait dans l'étroit espace et s'y déroulait à la manière d'un ruban de fumée, décrivant des cercles, des oves, des spirales, des lacets. Elle ondulait autour des meubles, montait au plafond, redescendait le long des portes, s'évadait dans l'escalier, rôdait d'une chambre à l'autre, laissant partout comme une buée de putréfaction et d'ordure. Quelquefois, elle semblait disparaître. Alors, on la retrouvait au jardin, dans ce jardin des bords du Cocyte, clos d'un mur de bagne capable d'inspirer la monomanie de l'évasion à un derviche bancal, devenu écarisseur de chameaux atteints de la peste. Ce fut, pour les naufragés, l'existence des premiers jours. Il n'y a que l'ange préposé à la flagellation des âmes qui pourrait le dire. La puanteur est un fourrier qui court en avant des larves cruelles quand il leur est permis de remonter du fond de l'abîme, et la peur froide l'accompagne. Certaines circonstances trop affreuses pour n'être pas réelles, et d'ailleurs promptement suivies de quelles rafales d'horreur, ne permirent pas à Clotilde d'abord et à son mari ensuite de douter qu'ils ne fussent tombés, pour la trempe surnaturelle de leur courage, dans un de ces lieux maudits que ne désigne comme tel aucun cadastre fiscal, où l'ennemi des hommes prend son délice et se met à califourchon. Le petit Lazare, paraissant indisposé depuis le désarroi funèbre de l'emménagement, sa mère dormait seule, près de lui, dans une chambre du rez-de-chaussée qu'on avait trouvée un peu moins sinistre que les autres. Léopold fermait avec soin toutes les issues et gagnait une cellule fétide à l'étage supérieur. Dès la seconde nuit, Clotilde fut arrachée au sommeil par des coups d'une violence extrême frappés à la porte extérieure, comme si quelque malfaiteur essayait de l'enfoncer. L'enfant dormait, et le père, dont elle crut entendre de loin la respiration égale et sonore, ne semblait pas avoir été troublé. Le vacarme avait donc été pour elle seule. Glacée de terreur et n'osant bouger, elle invoqua les âmes pieuses des morts qu'on dit puissantes pour écarter les sombres esprits. Le lendemain, elle n'en parla pas, mais il lui resta, de cette première visitation de l'épouvante, une anxiété lourde, une transe de catacombe dont elle eut le cœur crispé. D'analogues avertissements lui furent donnés la nuit suivante. Elle entendit une voix paniquée hurlant à la mort. Des heurts mystérieux d'impatience et de colère firent sonner les cloisons et jusqu'au bois de son lit. Affolée, Hagarde, ayant la sensation d'une griffe dans ses cheveux, mais craignant de partager ce hors-d'œuvre d'agonie avec son malheureux homme, elle fit venir un prêtre de la paroisse pour bénir la maison. Pax huic domui et omnibus habitantibus in ea. Seigneur, tu m'arroseras avec l'hysope et je serai net. Tu me laveras et je serai blanchi plus que la neige. Exauce-nous, Seigneur saint, Père tout-puissant, éternel Dieu, et de tes cieux daigne envoyer ton saint ange pour qu'il garde, réchauffe dans son sein, protège, visite et défende ceux qui résident dans cet habitacle, par le Christ notre Seigneur. La nuit qui vint sur cette bénédiction fut paisible, mais celle d'après, ah Jésus très obéissant qui sortit de la mort et du tombeau, quelle épouvantable nuit! Un cri inhumain, un croassement de suppliciés par les démons, mit la pauvre femme sur son séant, yeux dilatés, dents claquantes, membres disloqués par le tremblement, et cœur poussé, comme les battants d'une cloche d'alarme, contre les parois de ce flanc qui avait porté un enfant de Dieu. Elle se jeta au berceau de son fils. L'innocent n'avait pas cessé de dormir, et la clarté pâle de la veilleuse le montrait si pâle qu'elle chercha son souffle. Elle fut alors frappée de cette circonstance qu'il dormait trop depuis une semaine, qu'il dormait presque continuellement, et qu'il avait toujours froid aux pieds. Comprimant une crise de sanglots, elle le prit très doucement dans ses bras et le porta près du feu. Quelle heure pouvait-il être ? Elle ne le sut jamais. Il pleuvait un silence énorme, un de ces silences qui font perceptible la rumeur des petites cataractes artérielles. L'enfant exhale une plainte faible. La mère ayant essayé vainement de le faire boire, il s'agite, paraît soudain tout égaré, jette ses bras mignons contre l'invisible, à la manière des puissants qui meurent, et commence le râle de son agonie. Clotilde, comblée d'effroi, mais ne comprenant pas encore que c'est la fin, met la tête du cher souffrant sur son épaule, dans une position qui l'a plus d'une fois calmée, et se promène longtemps en larmes, le suppliant de ne pas la quitter, appelant à son secours les vierges martyres, à qui les lions ou les crocodiles mangeaient les entrailles pour l'amusement de la populace. Elle voudrait bien la présence de son mari, mais elle n'ose élever la voix, et l'escalier est si difficile dans les ténèbres, surtout avec un pareil fardeau. À la fin, le petit être tombe de son cou sur son sein, et elle comprend. « Léopold, notre enfant meurt » crie-t-elle d'une voix terrible. Celui-ci a dit plus tard que cette clameur l'avait atteint dans son sommeil comme un bloc de marbre atteint le plongeur au fond d'un gouffre. Accouru tel qu'un projectile, il n'eut que le temps de recueillir le dernier frisson de cette commençante vie, le dernier regard sans lumière de ces yeux charmants dont l'azur clair se faïença, s'émailla d'une vitre laiteuse qui les éteignit. En présence de la mort d'un petit enfant, l'art et la poésie ressemblent vraiment à de très grandes misères. Quelques rêveurs, qui paraissaient eux-mêmes aussi grands que toute la misère du monde, firent ce qu'ils purent. Mais les gémissements des mères, et, plus encore, la houle silencieuse de la poitrine des pères, ont une bien autre puissance que les mots ou les couleurs, tellement la peine de l'homme appartient au monde invisible. Ce n'est pas exactement le contact de la mort qui fait tant souffrir, puisque cette punition a été si sanctifiée par celui qui s'est appelé la vie. C'est toute la joie passée qui se lève et gronde comme un tigre, qui se déchaîne comme l'ouragan. C'est, en une manière plus précise, le souvenir magnifique et désolant de la vue de Dieu, car tous les peuples sont idolâtres, vous l'avez beaucoup dit, ô Seigneur. Vos tristes images ne savent adorer que ce qu'elles croient voir, depuis si longtemps qu'elles ne vous voient plus, et leurs enfants sont pour elles le paradis de volupté. Or, il n'y a pas d'autre douleur que celle qui est racontée dans votre livre. In capite libri scriptum est de me. On a beau chercher, on ne trouvera pas une souffrance hors du cercle de feu de la tournoyante épée qui garde le jardin perdu. Toute affliction du corps ou de l'âme est un mal d'exil, et la pitié déchirante, la compassion dévastatrice inclinée sur les tout petits cercueils, est sans doute ce qui rappelle avec le plus d'énergie le bannissement célèbre dont l'humanité sans innocence n'a jamais pu se consoler. Ils l'habillèrent de leurs mains pour le berceau définitif que le Verbe de Dieu balance avec douceur parmi les constellations. Puis ils s'assirent en face l'un de l'autre, attendant le jour. 2 ou 3 heures, ils subirent cet évanouissement secourable de la pensée et du sentiment qui est le premier état d'une douleur immense. Un seul mot fut proféré, le mot « bénédiction » tombé des lèvres de la mère et que Léopold comprit très bien. Ceux-là sont ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils suivent l'agneau sans tache partout où il va, dit la liturgie. Les chrétiens ont ce réconfort de savoir qu'il y a surtout des petits dans le royaume et que la voix des innocents qui sont morts fait sonner la terre. Ils auraient beau souffrir désormais, chercher leurs âmes à tâtons dans les pires chemins qui soient sous le ciel, tout de même ils étaient sûrs que quelque chose d'eux resplendissait bienheureusement au-delà des mondes. Le jour parut. Un jour blême qui avait, lui aussi, le regard d'un mort, et il leur montra leur solitude. Personne, jusqu'à cet instant, n'était venu les voir dans leur nouveau gîte, et les rares amis demeurés fidèles étaient loin et dispersés. Le souci le plus aigu dont puisse être poignardé un père mit Léopold sur ses pieds. « Comment ferais-je pour enterrer mon enfant ?» Une pièce de 100 sous eût été introuvable dans la maison. Il alla supplier le concierge de le remplacer auprès de sa femme et prit la fuite comme un insensé. Quelques heures après, muni d'une légère somme, à quel prix obtenue, il revenait juste assez tard pour être privé de la consolante occasion de casser les reins au médecin des morts. Ce personnage fantastique, évoqué par son absence, était sur le point de partir. On pouvait contempler en lui un de ces ratés sinistres et sans pardon, incapable de diagnostiquer une indigestion, que délègue la compétence municipale pour légaliser le trépas des citoyens, condamnés ainsi quelquefois à recommencer leur agonie sous 6 pieds de terre. Les entrepreneurs de pompes funèbres, qui ont toujours le mot pour rire, l'avaient surnommé le bourreau du 14e arrondissement. Clotilde avait eu la vision soudaine d'une sorte d'avoué ou d'huissier de corbillard, à graisse jaune et à favoris couleur de rouille, sur l'ignoble mufle de qui se mouvait continuellement une verrue grisâtre, assez comparable à un gros cloporte. Le goujat, se voyant chez des pauvres, était entré en gueulant et, sans même ôter son chapeau, avait, un moment, palpé, retourné de sa profanante main le petit corps lamentable, puis, regardant la mère suffoquée de tant de crapules, avait dit en ricanant ces inconcevables mots « Ah ah, vous pleurez maintenant que c'est fini ?» Oui, vraiment, c'était un coup de chance pour la peau du chien que Léopold n'eût pas entendu cela. Aussitôt après, il demanda, avec l'autorité d'un garde-chourme, qu'on lui montrât les ordonnances, devinant sans doute que ces pièces n'existaient pas. Clotilde, qui avait le cœur exactement au bord des lèvres, parvint cependant à répondre qu'à la vérité l'enfant avait paru languir les derniers jours, mais que, l'ayant guéri elle-même plusieurs fois de tel ou tel malaise analogue, elle n'avait pas même songé à l'intervention dangereuse d'un médecin, et qu'au surplus, la crise finale s'était produite au milieu de la nuit d'une manière si foudroyante qu'il eût été impossible d'invoquer un secours humain. L'autre, irrité de cette réponse et qui semblait avoir pris l'air de la baraque diabolique, évacua des choses imprécises, mais d'une insolence plus ferme, et qui tendait au certificat d'un soupçon horrible, ayant soin de mettre en valeur les mots de négligence criminelle, de grave responsabilité, etc. « Finissons-en, monsieur, dit la chrétienne avec force. Il n'est arrivé que ce que Dieu a voulu, et je n'ai que faire de vos discours insultants. Si mon mari était là, vous ne me parleriez pas ainsi. » À ce moment, Léopold rentrait. Un coup d'œil lui fut assez. Sans desserrer les lèvres ni faire un geste, il braqua sur le ruffian une si congédiante face que celui-ci roula vers la porte comme un torche-cul balayé du vent. À la mairie, l'employé du bureau des décès déclara à Léopold que l'heure de l'enterrement ne pouvait être fixée, le rapport du médecin nécessitant une enquête, et qu'on enverrait un autre voyou. Le laissant même entrevoir gracieusement l'éventualité d'une autopsie. Le deuxième savant, imploré presque à genoux, se montra inflexible, et l'horreur suprême fut épargnée à ces malheureux. Mais à cela près, la mesure fut comble. Pendant deux nuits consécutives, ils purent manger et boire leurs tourments, et garder encore de ce viatique pour le reste de leurs jours. Des deux écrasés, Clotilde parut la plus forte et fut obligée de secourir son compagnon. Cet artiste si ombrageux, cet aventurier affronteur de toutes les morts, ce téméraire d'entre les casse-coups dont on n'avait jamais vu le cœur faillir, eut besoin de s'appuyer sur sa femme pour ne pas tomber. Il se rappelait un geste, rien qu'un geste. Le soir qui avait précédé la catastrophe, au moment où il allait monter dans sa chambre, l'enfant s'était détourné de sa mère et avait tendu vers lui une de ses mains pour le caresser à son ordinaire. Mais Clotilde, qui n'était parvenue qu'à peine à faire prendre le sein au petit malade et qui craignait une distraction, avait éloigné d'un signe de tête son pauvre mari, que le souvenir de ce geste puéril, de cette dernière caresse perdue, torturait maintenant d'une manière affreuse. Car l'âme humaine est un gond de douleur, où le moindre choc détermine des vibrations qui grandissent, des ondulations indéfiniment épouvantables. Funérailles d'indigents, cimetières de bagneux, fosses communes, ah, toutes ces choses dans la neige! Marchenoir seul fut présent. Druide, informé trop tard, ne put être rencontré qu'au retour. Ces quatre créatures d'exception pleurèrent ensemble dans la maison désolée et abominable. Puis, ce qu'on ose appeler la vie reprit tranquillement son cours. Léopold et Clotilde avaient été heureux 3 ans. 3 ans. Il fallait payer cela, et ils virent bientôt que la mort de leur enfant ne suffisait pas. Songeant que leur part de joie dans le triste monde avait bien pu représenter les délices de 10 000 hommes, ils se demandèrent si n'importe quoi suffirait jamais. Il y avait d'abord ce logis odieux, ce cabanon de pestilence et d'effroi qu'ils ne pouvaient fuir sur le champ, où la misère les condamnait à l'atrocité inexprimable d'un deuil puant. Qu'on se représente l'horreur démoniaque de ceci. Au moment où les croque-morts allaient le coucher dans sa bière, Clotilde avait voulu baiser une dernière fois son petit Lazare, que ne ressusciteraient les larmes d'aucun dieu. Et l'infâme vapeur qu'il avait tuée, rôdant alors autour de ce front charmant, avait failli la suffoquer. Pourquoi cette souffrance hideuse? Pourquoi cette affliction de réprouver? Ô Seigneur! On ne refusait pas de souffrir, mais souffrir précisément comme cela? Était-ce possible? L'inexplicable fétidité parut devenir plus dense, plus lourde, plus tenace, plus lente. Ils la trouvèrent à la fois partout. Elle imprégnait leurs vêtements et courait avec eux dans Paris, sans que pluie ou gel pût la dissiper. Ils en vinrent à supposer un cadavre caché dans quelque épaisseur de maçonnerie. Conjecture que rendait singulièrement plausible le caractère spécial des visions ou des cauchemars qui ne cessaient de harceler Clotilde, aussi bien dans sa veille que dans son sommeil. C'était à croire qu'un crime avait dû se consommer là, et qu'en cherchant bien, on en trouverait des traces. Léopold écrivit au propriétaire une lettre véhémente qui n'eut d'autre pouvoir que de faire apparaître la plus répugnante figure de basse fripouille. C'était un marchand d'habits décrochés, un lessiveur de vieux pantalons, un mastoc frotté de pommade qui pouvait passer pour avoir été construit avec des quartiers de viande juive et des rognures volées à quelques fondoirs, monstrueusement surcollées à une carcasse de souteneur parisien. Une énorme pipe de maquignon cossu et batifolard, toujours fumante à sa gueule, et toute une bijouterie contrôlée sur les boulevards extérieurs complétaient sa physionomie. Le drôle trouva Clotilde seule, salua d'un tout petit geste protecteur sans se découvrir ni retirer son brûlot, frotta sur le parquet ses bouottes bueuses, fit quelques pas dans les chambres, lâcha de la fumée et de la salive, eut le clin d'yeux entendu et le réticent sourire d'un geôlier malin à qui on n'en donne pas à garder, enfin coupa court aux doléances que la pauvre femme, figée de dégoût, essayait de pousser dans le vestibule de son attention, déclarant d'un ton péremptoire qu'aucun locataire jusqu'alors ne s'était plaint du tabernacle, qu'on avait eu, d'ailleurs, tout le loisir de l'examiner avant la signature de l'engagement, et que, pour lui, quelle que fût sa bonne volonté, il ne voyait rien à faire. Quelques jours après, sur la menace d'une enquête administrative, il daigna expédier son architecte, personnage avantageux et bien affilé, qui trancha instantanément toutes les questions et conclut dans le sens de son envoyeur. Une démarche à la salubrité publique, où sa patience fut exercée par une vingtaine de culs de plomb à moutarde, répartis dans des bureaux inaccessibles, apprit du moins à Léopold qu'il n'y avait rien à espérer de cette administration. Il fallait écrire au préfet de la Seine sur une feuille de papier timbré. Exposer clairement et respectueusement le grief à ce haut seigneur, puis attendre la paix dans l'âme, en payant régulièrement les termes de loyer, qu'on voulût bien donner une suite quelconque au placet, dans un nombre indéterminé de mois. Les empoisonnés s'adressèrent au commissaire de police sans obtenir plus de réconfort. Le délégué affirma que l'odeur de cadavre était une illusion. Peut-être en effet n'existait-elle pas ce jour-là. Peut-être aussi le miasme infernal ondulait-il cauteleusement autour de ce visiteur sans impressionner son appareil olfactif, ainsi qu'on l'avait observé diverses fois. Au total, rien à faire. Comme l'avait dit l'aimable propriétaire, absolument rien, surtout pour des pauvres. La société est extra fine et la propriété immobilière admirablement gardée. Une vérité incontestable, c'est que le chrétien, le vrai chrétien pauvre, est le plus désarmé de tous les êtres. N'ayant pas le droit ni la volonté de sacrifier aux idoles, que peut-il faire? Si son âme est haute et forte, les autres chrétiens, vautrés devant tous les simulacres, se détournent de lui en criant d'horreur. Les divinités infâmes le regardent avec leur face de bronze, et les renégats, humiliés par sa constance, demandent qu'on le livre aux bêtes. S'il tend la main pour implorer une aumône, cette main plonge dans une fournaise. Léopold, tombé de son art, ne put éviter le cloaque au milieu duquel sa chute le précipitait. On l'y enfonça le plus possible. Comme il tentait de se mettre à genoux pour mieux souffrir, d'anciens amis piétinèrent, tassèrent l'ordure au-dessus de lui, et on fit passer là des chars de triomphe où s'étalaient le maquerellage et le putanat. Ensuite, on l'accusa de paresse, de scatalogie, d'ingratitude. Il expérimenta cette loi, toujours invraisemblable et toujours promulguée, qu'un artiste est invariablement exécré au prorata de sa grandeur, et que si, la meute féroce venant à le purchoisser, sa vigueur s'épuise, il ne trouvera pas même un garçon de charrue assez généreux pour ne pas lui jeter son coutre à travers les jambes. La fête de l'homme, c'est de voir mourir ce qui ne paraît pas mortel. Combien de métiers n'essaya-t-il pas l'infortuné dans l'âme qui vacillait encore tous les luminaires du Moyen-Âge ? Les invisibles qui versent à boire aux agonisants qu'on abandonne en furent témoins. Il sut alors exactement ce qu'avait pu être la célèbre tribulation de Marche Noire, dont la vie entière s'était passée à ramer sur ce banc de galériens, et qui allait mourir l'un des plus hauts écrivains du siècle, sans avoir obtenu ni sollicité de ses contemporains les plus intrépides le cordial hospitalier d'un doigt de justice. L'enlumineur lui avait dû quelques-unes de ses meilleures inspirations. Il lui devait surtout, en grande partie, d'être devenu un chrétien profond. Et, parce qu'il tâchait de voir en plein la face de Dieu, il désira d'être configuré aux souffrances de ce supplicié. De son côté, Clotilde avait trouvé d'homicides coutures chiennement payées, et on subsistait ainsi, l'un par l'autre, sans lendemain, de façon très rigoureuse. Les renards ont leur tanière, dit la parole. Le plus bas degré de la misère est assurément de n'avoir pas ce qui peut s'appeler un domicile. Quand le poids du jour a été écrasant, quand l'esprit et les membres n'en peuvent plus, et qu'à force de souffrir, on a entrevu l'abomination réelle de ce monde, qui est le spectacle des séraphins épouvantés, quel rafraîchissement de se retirer en ce lieu quelconque où on est vraiment chez soi, vraiment seul, vraiment séparé, où on peut décoller le masque exigé par l'indifférence universelle, et fermer sa porte, et prendre sa douleur par la main, et la presser longuement sur sa poitrine, à l'abri des douces murailles qui cachent les pleurs. Cette consolation des plus pauvres était refusée aux dieux misérables. Cher ami, dit un soir Léopold à sa femme, qui n'avait pu retenir une crise de sanglots, je crois lire dans ta pensée. Ne me dis pas non. Quelques-unes de tes paroles m'ont averti depuis longtemps. Tu te reproches d'être funeste à ceux qui t'aiment, n'est-il pas vrai? Je ne sais si une telle crainte est permise à une chrétienne qui mange tous les jours le corps de son juge. En vérité, je ne le sais pas. Et peut-être les plus forts ne le savent-ils pas davantage. Mais je veux un instant la supposer légitime. Te voilà donc terrible. Ta présence attire les bourdons de la mort. Le bruit de tes pas éveille le malheur. Ta voix douce encourage la coalition de l'aspic et du basilic. À cause de toi, on est massacré, on devient aveugle, on meurt de chagrin, on est captif dans les lieux infects. Qu'est-ce que cela prouve, sinon que ton importance est grande et ta voix très exceptionnelle? Pourquoi ne serais-tu pas, en vertu de quelque décret préalable à ta naissance, une excitatrice de Dieu, une pauvre petite personne qui met en émoi sa justice ou sa bonté? Il y a des êtres comme ceux-là, et l'Église en a catalogué un certain nombre sur ses diptyques. Ils ont le pouvoir, inconnu d'eux-mêmes, de circonscrire instantanément une destinée, d'accumuler dans la pression de leurs mains ou de leurs baisers tout l'éventuel et tout le possible qui s'échelonne le long du chemin de l'individu responsable, et de faire éclater d'un coup la floraison de cette ronce de douleur. Avant de te connaître, ma Clotilde, je croyais vivre, parce qu'il me semblait que mes passions étaient quelque chose. J'étais une brute, rien de plus. Tu m'as congestionnée de vie supérieure, et nos 30 mois heureux ne tiendraient pas dans tout un siècle. Appelles-tu cela être funeste? Aujourd'hui, nous sommes invités à monter plus haut que le bonheur. Ne crains rien, j'ai de quoi te suivre. Clotilde lui ferma la bouche avec ses lèvres. « Tu as sans doute raison, mon bien-aimé. J'ai honte d'être si peu devant toi, mais puisque tu oses prétendre que j'en ai le pouvoir, je t'emprisonne volontiers dans la vie éternelle. »